Ce soir, j'ai voulu, Bezrat Hashem, faire un cours sur texte volontairement pour vous obliger un petit peu à devenir actif et pas seulement passif dans les cours et vous faire participer. Et lorsque nous avons un texte devant les yeux, la Torah pénètre beaucoup plus facilement. C'est un texte que j'ai écrit, Bezrat Hashem, concernant le mois dans lequel nous sommes, puisque nous sommes Rosh Chodesh, Tamouz. Vous savez bien que dans le mois de Tamouz ont commencé quelques perturbations au niveau du peuple d'Israël. Et la perturbation d'une manière générale, qui englobe toutes les perturbations, c'est le début de la destruction du temple. Il s'est passé beaucoup de choses pendant les deux mois de Tamouz et de Av. Et la racine, en fait, c'est une racine qui remonte bien plus loin que la destruction elle-même. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce cours, l'ordre du monde, Seder Olam, Binyan, Chorban ou Binyan. Le monde est basé sur un ordre qui revient, et on va le voir dans plusieurs domaines, d'une première étape de construction, puis une deuxième étape de destruction, et puis une troisième étape de reconstruction. Et vous allez voir que ce rythme-là est respecté dans beaucoup de domaines de la vie. On va essayer ensemble de voir comment ça marche. Alors je lis, je traduis, et en même temps en avant. Amidrash, de Bereshit Rabba Parasha Bet Siman Zayin, le Midrash nous dit Amar Rabbi Chiya Rabba. Rabbi Chiya Rabba nous enseigne Mitrilat Briyato Shel Olam Safa Kadosh Baruch Hu Bet HaMikdash Banui Vecharev U Banui. Dès le début de la création du monde, à Kadosh Baruch Hu, qui voit déjà l'avenir, qui n'est pas limité par le temps, il voyait déjà que le temple de Jérusalem allait être construit, puis détruit, puis reconstruit. Jusque-là, il n'y a pas de problème, Dieu voit l'avenir, il sait très bien ce qui va se passer dans le temps. Pour renforcer les paroles de ce Midrash, le Midrash vient nous donner des versets, et ces versets-là vont être en fait le rythme. Premier verset, Bereshit bara Elohim. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, premier verset de la Torah, création égale construction. Donc, Harei Banoui. Et Midrash nous dit, voici la preuve, dans le premier verset de la Torah, que tout va commencer par une construction. Deuxième verset, Vehaare Taïta Tou Vavou. Et la terre était tohu bohu. Lorsqu'on entend tohu bohu, on entend destruction. Donc, harei, harev, dit le Midrash, voici la preuve dans le premier verset, dans le deuxième verset, que il y aurait destruction après la première construction. Et le Midrash continue. Voyons, Elohim yehi o, Dieu dit que la lumière soit. Donc nous avons encore une fois une lumière après le tohu bohu. Harei banul ou meshuchlal le'atid lavo. Voici la reconstruction et la perfection après la destruction. La seder amofia de midrash zeh. Donc l'ordre que le midrash nous offre ici, il est clair. Klomar, binyan, chorban, le binyan. Nous avons un degré de construction, création, qui suit un problème de destruction, de cassure, de brisure, puis après, de reconstruction. Et ceci est une base dans tout ce que nous allons voir et rencontrer dans notre vie d'une manière générale, dans tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, les premiers versets de la Torah nous donnent ce rythme-là. Ça veut dire qu'en réalité, il ne s'agit pas que de la création du monde avec la terre, le ciel. Il s'agit de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, puisque dans le mot Bereshit, il y a déjà tout.
Ça veut dire que d'une manière allusive, la Torah vient nous enseigner ici une grande leçon. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a codé à l'intérieur des premiers versets de la Torah un certain rythme qui, ce rythme, sera respecté tout au long de la création. Et non seulement tout au long de la création, mais même dans notre vie privée, à chacun de nous. Donc, Mitrila Tabria, depuis déjà lors de la création, ce rythme-là se dévoile d'une manière qui revient toujours à la même chose, dans plusieurs degrés de notre vie, et en même temps, pour clôturer tout le programme, dans la délivrance du peuple d'Israël. Puisque nous sommes dans un mois de début de destruction, à partir de cette donnée-là, nous allons voir la réalité de la vie d'une autre manière. C'est-à-dire, nous allons appréhender les problèmes autrement. Nous allons voir qu'en réalité, dans chaque chose de notre vie, il y a une étape qui construit, et de temps en temps, on va passer peut-être par des brisures, des chutes, mais qu'il y a une troisième étape qui est une reconstruction. Et donc je dis tout de suite, c'est qu'en réalité, chaque état qui nous fait tomber, en réalité ne nous fait pas tomber gratuitement, c'est en réalité une chute qui est là pour nous élever après cette chute-là. Alors on veut comprendre un tout petit peu ce rythme, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière, et pourquoi ce rythme-là doit revenir. De ma sœur de Réchit, Nivreouchien Améorot Abdelim. Et je commence à donner des exemples. Par exemple, dans la création du monde, les deux luminaires, on les appelle dans la Torah les grands luminaires, Améorot Abdelim. Hashem et Zayarer, donc le soleil et la lune. La Torah dit au début qu'ils étaient tous les deux grands. Et qu'est-ce qui trouve chez la Levana, chez Amra? IFC, le Shem et la Chim, l'Istamesh, de Keter Echad. Mais la lune est venue se plaindre, entre guillemets, devant le Créateur, en lui disant que ce n'est pas possible que deux astres, et là la lune emploie un autre terme, que deux rois et une seule couronne. C'est-à-dire, entre guillemets, la lune vient se plaindre et dit, c'est ou lui, le soleil, ou moi. דהיים שחוזרים למצב הראשון, אבל לעתיד לבוא, אמר לה הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דיה ללין, תשאל שפלה, לכי מעתיד עצמך, תואה תיבת הדין יהיה. דוק, הפרטיר בשום עולה, לדו לימינר נסמפלו לדו גרן לימינר, יבר עשה לו גרן לימינר, לסולל, אלו פסי לימינר, תשאפל ללין. אבל לעתיד לבוא, ועל הפן נסם, יהיה תקשי, Zaya or al-Levana, qui est or al-Hama, que la lumière de la lune redeviendra comme la lumière du soleil. Autrement dit, il y a une remontée de la lune après sa chute. Daim se rejoint la matière d'Arishon, donc on revient à l'état première, mais à Meorot Adjolim, des deux grands luminaires. Alors il y a ici un jeu. Au départ, on est à égalité, il y a une certaine chute. Et puis on revient à cette égalité. Pourquoi? Ouma, c'est Tiour, Briat, Haola, Matril, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. La description de la création du monde, c'est premier jour. Il fait un soir, il fait un matin, premier jour. Il fait un soir, il fait un matin, deuxième jour. Troisième jour, quatrième jour, et ainsi de suite. Je suis passé maintenant à un deuxième exemple. Lorsque Akadosh va recréer le monde, il commence par le premier jour, deuxième jour, jour 1, jour 2, jour 3. Mais la Mède, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'avant ce premier jour, il y avait quoi? Il y avait un jour qui n'était pas du compte. Autrement dit, on peut supposer que si Akadosh va recréer, entre guillemets, a créé le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, jeudi, vendredi, puis après il y a eu un sabbat, on peut supposer qu'avant ce premier jour de création, il y avait aussi un sabbat. Et c'est pour ça qu'on commence la création par jour 1, et qu'on clôture par un sabbat. Et comme dans notre vie, nous avons un Shabbat avant, nous avons 6 jours, puis un Shabbat après. La même chose ici. Mais la Mais, c'est l'Ismaï. Ayamen Shabbat, il y avait une sorte de Shabbat avant le premier jour, jour 1 de la création. C'est Kadam le Otam de Meichol qui a précédé ce jour profane. Le Shabbat Zom et la Mezet al-Matav Shel Shlemut ve'Achdut, ce premier Shabbat qui a précédé le monde, c'était en fait l'unité, l'unité parfaite. Dès que l'on commence à compter jour 1, jour 2, jour 3, nous sommes en train de rentrer en fait dans les détails. Qui équivaut à dire qu'avant les détails, il y a d'abord le tout. On sort du tout, c'est ça la création, et on commence à rentrer dans les détails. Et une fois qu'on a fini de rentrer dans les détails, on réintègre le tout. Puisqu'à la fin des 6 jours, il y a encore un Shabbat. Moralité, nous avons un Shabbat avant, nous avons 6 jours de travail profane, puis un Shabbat après. Les Chachamim nous disent dans la Gemara d'une manière allusive aussi. Il m'allait, il chamrou, Israël, stay Shabbatot, miyad mid ali. Si Israël observait 2 Shabbats, ils auraient été délivrés. Tout de suite. Sous-entendu, si on arrive à faire le lien entre le Shabbat d'avant, les 6 jours, et le Shabbat d'après, les 6 jours. À quelle différence il y a? Pourquoi me faire 2 Shabbatot? Et entre les 2 6 jours, ou dans ces 6 jours, en réalité, j'ai une capacité à me casser la figure. Il vaut mieux rester dans la plénitude du Shabbat, on est bien d'accord. Lifnei yetziat ha'olam, le'olam ha'pirut ve'hapratim. Chazal melamdim ki seshet yemei habriya makbilim le'seshet alfei ha'shanim shel kiyum ha'olam. Et les sages nous expliquent dans la Gemara de Sanhedrin que les 6 jours de la création correspondent aux 6000 ans qui en réalité le temps limite pour l'existence de ce monde tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que ce monde-là, tel que nous le connaissons, nous sommes dans le 6e millénaire, donc dans le dernier millénaire, après nous rentrons dans le Shabbat du temps. Ça veut dire que chaque jour de la création correspond à 1000 ans. Et c'est pour ça que David HaMelech dans le Tehillim nous dit « Ki'elef shanim be'enecha ke'yom etmol ki'avo » Car 1000 ans, à tes yeux, c'est un jour. C'est-à-dire pour nous, 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Donc lorsque Dieu dit dans le livre de Bereshit jour 1, jour 2, jour 3, ça veut dire pour nous, premier millénaire, deuxième millénaire, troisième millénaire. Et comme nous sommes dans le 6e millénaire, nous sommes bientôt à l'entrée du Shabbat du temps. Et c'est pour ça qu'il va se passer avant l'entrée du Shabbat du temps. Beaucoup de perturbations et un petit peu de transpiration et de panique qui ressemble un tout petit peu à la panique que nous avons le vendredi. Pour rentrer dans le Shabbat. Où ça fait, on va courir, faire ses cours, on est toujours en retard de quelque chose. C'est en fait ce qui se passe juste avant l'entrée dans le 7e millénaire. Ou bien, sauf à Tahali, et à la fin du processus, il m'a pas ta Shabbat va elle effacer. Le 7e millénaire va correspondre donc à un Shabbat du temps, 1000 ans qui vont être Shabbat. Yachzor haolam le matzavo ha-shalem, le monde va réintégrer, va revenir à sa position d'entité. C'est-à-dire, comme le définit Snostas, Yom Shekulo Shabbat Umnucha le Chayor Lamé. Un jour entièrement sabbatique. Pour jusqu'à la fin des temps. Moralité, on a vu ça au niveau des jours, on voit ça au niveau des millénaires, et ce rythme recommence. C'est-à-dire une plénitude. Puis une destruction entre guillemets, parce que rentrer dans les jours profanes ou dans les 6 millénaires du profane, c'est une chute. C'est pas évident. C'est la mise en détail. Et quand tu rentres dans les détails, tu risques toujours de perdre l'image globale. Oui. Si vous voulez des textes, il y a ici encore. Puis après, on réintègre l'unité. Pareil, c'est Dam Khan, mon fils Autoseder. Donc, il apparaît le même rythme, même ici. Binyan, Khorban, c'est Binyan. Construction, destruction et reconstruction. Klomar, Hakol Matrimi Matsav, c'est l'Akhdoud Gmoura. Donc, tout commence toujours. On a déjà vu quelques petits exemples déjà. Ce n'est pas fini. Par une entité, ולאחר מכן בשלב של התפרטות, après vient l'étape de la mise en détail, c'est-à-dire on rentre dans tous les détails de la vie, המאפשרת עבודתו של האדם. Et donc là je vais intégrer une nouvelle notion. Pourquoi il y a la mise en détail? Pour laisser en fait la place à l'homme. Vous comprenez bien que dans l'unité, nous n'avons pas, nous les hommes, de place. Puisque l'unité divine, qui dit unité divine, dit en réalité plénitude. Donc s'il y a plénitude, où est-ce que j'ai moi ma place dans cette plénitude? Ça ne va pas. S'il est déjà entier, s'il est déjà plein, l'homme n'a pas sa place, n'a pas même une place pour travailler, pour faire remarquer ce qu'il est, pour se réaliser, pour s'exprimer. Je peux vous donner un exemple. Si vous êtes à côté d'un grand rave, vous n'avez pas trop la parole. Si vous êtes à côté d'un grand homme, de quelqu'un d'important, il prend tellement de place qu'il ne vous laisse pas trop, en fait, l'expression. Donc vous vous sentez un petit peu inexistant. Alors imaginez-vous, devant l'Éternel, dans sa plénitude, où est la place de l'homme? Donc qu'est-ce que fait l'Éternel? D'une manière volontaire, il va en fait casser sa propre plénitude, sa propre entité, pour nous laisser, nous, l'homme, les hommes, la place de réagir. Donc c'est une miséricorde divine. Dieu s'efface un petit peu pour nous laisser la place d'être. Vous savez qu'en psychologie, au niveau parental, quel parent-enfant, il faut un petit peu jouer à ce jeu. Si le père ou la mère prennent trop de place par rapport aux enfants, les enfants n'ont pas de place. Et surtout si le père ou la mère sont quelqu'un de très connu, de très important, que tout le monde respecte, l'enfant se sent diminué. Et quand on le voit, on dit que tu es le fils d'un tel. Il en a marre d'être le fils d'un tel, il veut lui aussi être quelqu'un. Et donc il faut une intelligence du père ou de la mère pour un tout petit peu se casser, moins prendre de place pour laisser l'enfant être. Et en réalité, c'est l'humilité. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, ne prenez pas toute la place. Qui nous apprend cela? Akadosh Baruch Hu lui-même. Dans le langage de la Kabbale et de la Chassidut, ça s'appelle le Tzimtzoum. Vous avez sûrement entendu déjà parler de cette expression. Le Tzimtzoum. Traduction littérale, la contraction. Dieu s'est contracté. Il ne montre pas sa totalité. Il se cache. Il se fait entre guillemets petit. Comment il fait pour se faire petit, pour se cacher? Il a créé une cassette. Comment s'appelle la cassette? Celle qui cache. En hébreu, Olam. Le monde. C'est une fausse traduction, le monde, en français. On devrait traduire littéralement Olam, Milaton, mais Olam. Celui qui cache. Donc le Olam, le monde, tel qu'on le traduit en français, n'est ni plus ni moins que la cassette de Dieu. Dieu se cache dans ce monde. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne le voient pas. C'est très facile de ne pas le voir. Et pour le voir, d'ailleurs, il faut travailler. Un jeu de chasse. Il faut compter jusqu'à 20. Et de temps en temps, on le rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'en réalité, Dieu a fait ce travail-là? Je suis en train déjà de répondre un tout petit peu pourquoi il y a cette mise en détail, après l'unité totale. Donc Dieu se cache. Mais après le processus, on va pas jouer éternellement à cache-cache. Quand j'étais petit, on jouait à cache-cache. On se cachait tellement bien que le jeu se terminait, on savait même pas qu'il était déjà fini. On rentrait à la maison, il n'y avait plus rien. Et il y a un moment donné où le jeu s'arrête. Donc Dieu, à la fin du jeu, va réapparaître. Donc, une fois que la place a été donnée à l'homme, combien de temps? 6000 ans. L'éternité réapparaît. Donc, moralité, l'éternité comment? Il y a 6 millions d'expressions humaines et retour à l'éternité. Réapparition de l'éternité. Entre-temps, il y a une possibilité de découvrir cette éternité par le travail de l'homme. Mais c'est un travail difficile. Gametela Adam Ophia Sedogomes. Chez l'homme, ce rythme est respecté aussi. Binyan, Khorban, Binyan. Construction, destruction et reconstruction. C'est avec Katoubera Sekhet Nida d'Aflam. Il est écrit dans la Gemara de Nida. À la page 30. Shaouba Vemeino, l'omed kola Torah kula mitimanach. Que le fœtus, dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. C'est un ange qui lui enseigne la Torah. Il faut bien entendu comprendre que les anges viennent nous enseigner par ça. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que nous avons une étude de Torah pendant les 9 mois de la grossesse à l'intérieur du ventre de la mère. Et cette sagesse qui est donnée à l'enfant, qui n'est pas encore sorti, à l'intérieur du ventre, on va lui faire oublier tout ce qu'il a étudié le jour où il sort. C'est-à-dire, on lui enseigne la Torah pendant 9 mois, 9 mois de notre temps, mais dans le ventre de la mer, c'est une éternité. Donc on lui enseigne toute la Torah, le temps n'existait pas pour lui, là-bas. Au moment où il sort du ventre, le jour de l'accouchement, on dit dans la Gemara que un autre ange vient et le frappe pour lui faire oublier toute la Torah qu'il a appris dans le ventre. Ve'teto le'avir ha'olam ve'chachmei ha'emet kinu ha'chokhma hazot be'midrasha le'ner galuk. Et les sages nous disent que cette sagesse enseignée à l'enfant ressemble à une bougie qui se trouve sur sa tête qui lui permet et de voir de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Je vous traduis littéralement le terme de la Gemara. C'est-à-dire une capacité à l'enfant de voir les causes et les effets. Bien entendu, il ne s'agit pas de voir une distance. C'est-à-dire que l'enfant, dans le ventre de sa mère, a un degré de prophétie. Il arrive à voir l'avenir. Il arrive à voir du début à la fin de l'histoire. Alors je vous pose la question, pourquoi on lui fait oublier lorsqu'il sort du ventre? À quoi ça sert toute cette étude? Zehu Shamu Bagmara, donc les sages nous disent dans la Gemara, je continue ce récit, Ner Dolek, Ner Daluk, Munach al Rosho, Sofe Umabit Misof Olam Vatsofo. Il a une lumière qui lui permet de voir, une sagesse en fait, qui lui permet de voir de la fin du monde à la fin du monde. Et Ran Siyatsal et Avir Aolam, mais dès qu'il sort, au moment de l'accouchement, Bamalach Besotro Alpiv. Un ange vient le frappe sur la bouche, ou Maskiach ni même encore la Torah Kula, il fait oublier toute cette Torah. Et Kinema, comme il est dit, la Petach Chatat Rove. Dès que tu es sorti, la Petach, à l'ouverture, Chatat Rove, le mal t'attend. Il va te sauter dessus. C'est-à-dire qu'en réalité, le petit bébé, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est dans une nouvelle réalité où le mal lui saute dessus. Qu'est-ce que c'est le mal? L'oubli. L'oubli d'en réalité la réalité. L'oubli de la vérité absolue. Il rentre dans un monde de détails. Il est plongé maintenant dans les détails. Il risque donc d'oublier. La reine Zéouta a lu que le binyan, Khorban le binyan. Donc là, ici, on revient au même rythme de construction, de destruction et de reconstruction. Où est la reconstruction? C'est toute la vie de l'enfant. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce qu'il devienne adulte, qu'est-ce qu'il va essayer de faire cet enfant? De récupérer, d'une manière ou d'autre, la Torah qu'il a déjà reçue dans le ventre. Et c'est en réalité pour cela que nous étudions la Torah. Mais en réalité, on n'étudie rien de nouveau dans la Torah. On ne fait que répéter. Nous n'avons qu'une répétition de ce que nous avons déjà appris. Alors encore une fois, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi tout ça? Mais cela veut pas trop tôt chez la yel. Donc au moment où l'enfant va grandir, se développer, derrière quoi la masbénie sous pogès de chayav, il va rencontrer beaucoup de crises dans sa vie. Nebone ou et atmo, il va construire lui-même, il va se construire. Vetorat, il va construire sa Torah. Vetma Asad, il va construire ses actes. Ou Metaken Midotad, il va arranger ses vertus. Cause d'autre que de la Siga Binyan à Salem, mais l'on a bouché cette Kabbalah primaire et tout ça pour ne pas recevoir gratuitement les choses. Et là aussi, je vous ai déjà donné une réponse. J'avance en donnant quelques réponses. C'est-à-dire, nous avons déjà une clé. Pourquoi enseigner la Torah dans le ventre de la mère pour ensuite la faire oublier? Tout simplement parce que l'enseignement qui est donné dans le ventre de la mère est un enseignement qui est reçu gratuitement. Ne demande pas à l'enfant de faire un effort. C'est une raison aussi pour laquelle je vous ai distribué des feuilles. Pour suivre en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah que nous recevons gratuitement, sans effort de notre part, n'est pas une Torah qui reste. Si vous ne participez pas à l'élaboration de votre vie, les choses ne restent pas. Un des rabbanim que je connaissais, qui a quitté ce monde, disait qu'il n'était pas un rav qui donnait des brachot aux gens. Il refusait de donner des bénédictions. Il dit, si vous avez envie de bénédictions, allez chez d'autres rabbanim. Moi, je ne donne pas des bénédictions, je donne des conseils. Parce que quand je te donne une bénédiction, je te paralyse. Tu as l'impression que l'aide va venir de l'extérieur et toi, tu ne fais rien pour t'aider toi-même. Donc, je vais te donner un conseil et pour moi, c'est ça la bénédiction. C'est-à-dire que toi, tu vas élaborer ta propre vie. Je te force à construire ta propre vie et ne pas attendre des solutions qui viennent du dehors. Et si cet enfant grandit et qu'il a le mérite, et là, je donne encore une autre réponse. C'est que la Torah qui va être atteinte, la Torah qu'il aura atteinte durant sa vie, est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, beaucoup plus construite que la Torah qu'il aura reçue dans le ventre. Pourquoi? Tout simplement parce que le rythme que nous sommes en train de répéter depuis tout à l'heure, de construction, destruction et construction, c'est pas pour revenir au même degré de construction du départ. À savoir que la construction du départ est beaucoup plus basse que la construction deuxième. C'est-à-dire qu'il y a construction, il y a destruction, mais la deuxième construction va être beaucoup plus haute que la première. Tout simplement parce qu'il y a une participation de l'homme. Ah, il y a fait mal. Ça veut dire que le travail, et c'est ce qui a marqué dans le verset, c'est pas que la lune va être plus grande que le soleil, elle sera plus grande que le soleil de maintenant. Comme il est écrit, je n'ai pas suivi le verset, Vaya or alvana ke orachama, et qu'est-ce qu'il est écrit après? Orachama siv atan ke or sivat ayamim. C'est-à-dire que même la lumière du soleil d'aujourd'hui sera 49 fois plus forte. Donc la lune ne viendra pas au degré du soleil d'aujourd'hui. On n'a rien gagné. On avait déjà tout. On a perdu, on revient vers ce tout, qu'est-ce que j'ai gagné. Elle aura atteint un degré multiplié. On commence déjà à avoir une ligne de conduite. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ce monde avec ce rythme-là? De détruire quelque chose d'entier pour ensuite le reconstruire. Autosaderanal, Mofia Gambe Tassade. La même chose quand on plante un arbre. Qu'est-ce qu'il se passe? Batrila me abrim et adama. Au début, on laboure la terre. Vezorimba et azera. Et on va planter la graine. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se passe? La graine devrait pousser? Pas du tout. La graine commence par un processus de pourrissement. Elle va se décomposer totalement. Et celui qui n'a pas de patience, non seulement il ne voit pas l'arbre pousser, mais même la graine qu'il a plantée a disparu. Et donc tu ne comprends rien. Ou bien comme il se passait à Khmiyad, au lieu d'un dévoilement immédiat, il est à Zeranil Kavba Adama. La semence est en train de se décomposer dans la terre. Et après un long processus, beaucoup de patience, il y a une reconstruction où Matril est mort, il commence à pousser. C'est exactement l'équivalent de la résurrection des morts. Vous voyez donc qu'il y a une suite logique et dans tous les domaines de la vie. Bien entendu, je n'ai pas amené tous les exemples. mais on est en train quand même de toucher quelques points dans beaucoup de domaines qui respectent ce rythme-là. Kadosh Baruch Hu bara et Adam, on revient vers l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, Shimon et Marsham le dit sur sa création, Zachar ou Nekeva bara otam vaikra shmam Adam. Il les a créés mâles et femelles. Et il les a appelés comment? Adam. Les deux ensemble. Ça veut dire que lorsque vous dites à quelqu'un Adam, ça sous-entend mâle et femelle. Le Har Matav c'est le Mout Mekori. Après cette entité-là, il est matri massav sefirud. On voit que Dieu sépare le côté masculin du côté féminin. Et le côté masculin va maintenant avoir le nom de Is, et le côté féminin va avoir le nom de Issa. Encore une fois, on est parti d'une unité. On arrive à une étape de séparation. Dieu endort le premier homme. Vous connaissez quand même, il appelle la femme Elohim Tardema à Adam Vaïssan, et il lui sort qu'elle, la femme, de son côté. Donc il y a une séparation. Ce processus d'ailleurs revient dans notre monde. C'est-à-dire que, avant de descendre dans notre monde, dans ce monde-là, dans le monde spirituel, nous sommes déjà mariés avec la femme qui nous correspond, ou le mari qui nous correspond. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire que les âmes sont déjà collées. Chacun, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est dit 40 jours après sa conception, « Bat ploni le ploni », comme ça dit la Gemara. Telle fille correspond à tel garçon. C'est-à-dire que 40 jours, vous êtes à 40 jours de la grossesse de la maman, c'est rien. À ce jour, la 40, en détresse dans le ciel, avec qui vous allez vous marier? Ça veut dire que vous êtes déjà prévu pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette force-là, vous l'avez déjà avant de descendre dans ce monde. Autrement dit, avant de sortir dans ce monde, nous sommes déjà mariés spirituellement avec l'âme sœur. Et mon épouse et moi, nous étions un dans le ciel. Mais ce qui se passe, c'est dans le rythme que nous sommes en train de développer dans ce siou, c'est que dès que nous descendons tous les deux, on va se séparer. Moi, je vais naître, même au niveau du temps, séparément d'elle, d'un ventre d'une maman, différent d'un autre ventre d'une autre maman. Il va falloir beaucoup de bonté divine et de recherche de ma part et de sa part pour que nous nous retrouvions. Pas facile. C'est-à-dire qu'en réalité, la femme que j'ai épousée dans ce monde était ma femme déjà au niveau initial dans les âmes. Et c'est comme si j'ai recherché quelque chose que j'ai perdu. D'ailleurs, le sage nous dit comme ça dans le Gemara. C'est Inu Mechapes Avedato. Il cherche la moitié qu'il a perdue. Vous savez que dans la Gemara, il y a un jeu au niveau du rythme des Gemarot. Dans la Gemara qui parle de divorce et dans la Gemara qui parle du mariage. Comment s'appelle la Gemara qui parle de divorce? Dit-il, comme le guet. Comment s'appelle la Gemara qui parle des mariages? Kiddushin. D'après vous, qui est avant qui? Dit-il ou Kiddushin? Kiddushin? Eh bien non. Les sages disent que Dit-il vient avant. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, elle veut déjà un divorce. Nous étions unis dans le monde d'en haut, et nous avons divorcé dans le monde d'en haut pour nous remarier dans le monde d'en bas. Et donc les sages ont suivi ce rythme. C'est pas comme disent les mauvaises langues, c'est pour prévenir et déjà prévoir le divorce avant le mariage. Mais au niveau profond, il s'agit là d'un ordre bien, bien précis, extraordinaire. Alors regardez dans le texte. Sira. Qu'est-ce que c'est un divorce? Alors explique-moi ce que c'est un divorce. Vous savez combien de gens cherchent des femmes et des hommes et ne le trouvent jamais? C'est ce que je vous pose la question. Il y a des gens qui quittent ce monde sans avoir trouvé leur moitié. C'est un divorce. C'est maman, c'est un divorce. C'est une coupure tellement grande qu'on a oublié. Qu'on ne sait même plus à quoi elle ressemble. Ou à quoi il ressemble, c'est pas évident. Et de temps en temps, quand on se retrouve, on se dit, tiens, c'est toi, j'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression de reconnaître quelque chose. Mais c'est pas évident, ça s'appelle un divorce. Okay? Quand un couple est séparé, et qu'il n'y a pas de vie familiale, il n'y a pas de vie commune, ça. Mais très bien, mais au niveau législatif, vous me parlez d'un papier, moi je vous parle d'une réalité. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui n'a pas de vie familiale avec sa femme, c'est un divorce. Même s'il n'a pas le papier du divorce. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah. Et si les choses ne sont pas respectées au niveau familial, ça équivaut à un divorce, même si on n'a pas le papier. D'ailleurs, je peux vous dire l'inverse. Au niveau des liens homme-femme, même s'il n'y a pas de kiddushin à la synagogue avec un papier qui s'appelle la ketouva, à partir du moment où un homme et une femme ont été ensemble, ils sont mariés au niveau du ciel. Ce qui est grave aussi. Okay? La halakha ne doit pas nous obscurcir la réalité du divin. Okay? Donc s'il y a le mérite dans ce monde, après un long cheminement de recherche, après la partie perdue, ils redeviennent une seule chair. Et c'est pour ça que le texte dans la Torah dit ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ils étaient déjà. Ils sont une seule chair. Comment ils se sont séparés? Comme ils l'étaient dans leur source. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons cette bénédiction lorsqu'un homme et une femme se marient. Pourquoi? Vous dites que les kabbalistes, ce sont sept points de colle pour recoller la brisure entre ce couple-là. Chaque bénédiction va être un point de colle, très fort. Et c'est pour ça que les sept avant-coups sont très importants. Et il y en a sept, multipliés par sept, c'est-à-dire 49. Ça veut dire qu'on va se coller de 49 points de colle, ce qui veut dire, dans un monde plus profond que je ne vais pas rentrer maintenant, que nous sommes reliés jusqu'au Lamaba. Et d'ailleurs, la Choupa peut s'écrire en hébreu Chof. Vous savez ce que c'est Chof? Vous habitez au bord de la plage. Chof, c'est le bord de Ré. Choupa, c'est-à-dire le bord du Ré. Quel Ré? Le premier Hé du nom divin. Je sais pas s'il est ici quelque part, le voilà. Vous voyez le Yud, Ké, Vav, Ké. On arrive au bord du Hé. L'homme va être le Vav, et la femme va être le dernier Hé. Et lorsqu'ils s'accouplent, ils rejoignent le premier Hé, qui est en fait le Olam Abba. Et à l'intérieur de ce premier Hé va rentrer la graine qui est le Yud, et qui va leur donner la vie. C'est-à-dire un enfant. Et donc vous allez écrire, réécrire le nom de Dieu. Et c'est pas par hasard qu'il y a quatre hommes qui tiennent la choupa, équivalent aux quatre lettres du nom de Dieu. Et il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur, que ce n'est pas le moment. Je reviens au rythme du cours. Union, séparation et réunion. Nous sommes dans la partie haute à gauche. L'ikéval, c'est quoi le masekoré baolamot atartonim? Puisque tout ce qui se passe ici, dans notre monde réel, entre guillemets, hein, parce que en réalité, le monde réel n'est pas celui qu'on croit. Et qu'est-ce qui est réel dans cette table? La matière ou l'énergie? C'est évident, hein? Il y a 99,9999 d'énergie. Et 0,00000001 de matière. Vous savez ça? Vous savez que si on condense toute la planète Terre, vous pouvez la mettre sur la tête d'une épingle? Scientifiquement. Ça veut dire que la plupart de ce que vous voyez matière, c'est du vide. Si on arrive à condenser tout ça, okay, toutes ces molécules, on arrive à rentrer en fait dans rien du tout. Si vous arriviez à vous faire très petit, vous arriveriez, j'ai en français j'ai du mal, à passer entre les molécules. C'est une distance énorme entre chacune d'entre elles. Des kilomètres. Seulement, comme nous sommes grands, on a l'impression que non. Mais si on se fait très petit, on peut traverser la matière. Mais c'est vrai, c'est comme ça que c'est la montée à Tartonie. Mais jusque tout ce qui se passe ici, son choba la montée à Lyonie, sa racine est dans le monde caché, justement, dans le monde de l'âme, qu'on appelle le monde supérieur. La chaîne de la note Katouba Svarim Adgoshim, c'est le Briat Aoya Maya Matar, c'est le Slemout Vachdout, le Trinat Oren Sof, le Malek Olamekiou. Dit le Harizal, dans son premier chapitre de Ephraim, le livre clé de la Kabbalah, avant la création de ce monde, il y avait la lumière infinie, pas une lumière électrique, une lumière infinie, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, qui remplissait toute l'existence. Ça aussi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais le Harizal veut nous dire, avec des mots un petit peu compliqués, qu'il n'y avait pas de manque, qu'il y avait une entité parfaite, une plénitude. Et quand le Créateur a voulu, et regardez, je vous ai mis ici un ordre, Léatil, Atilou, Livro, Bria, Litor, Yetira, Vela Asot, Atila. Quand Dieu a voulu passer par toutes les étapes de la création, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde du façonnage et le monde de l'action, il s'est entre guillemets contracté. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a écarté, caché sa lumière. C'est comme si Dieu avait fait quelque chose d'inverse à lui-même. Puisque lui-même, c'est l'entité, c'est la plénitude, c'est le tout. Il a créé un système qui est inverse. Un système qui manque, un système qui est caché. Un système de vide de lui. Et ce secret-là, qu'on appelle le Tsimtsoum, qui est d'ailleurs le mot jeûner, vient de cette racine. Tam, Yom Tom, un jour de jeûne. C'est-à-dire quand tu tam tam, c'est Tsimtsoum, ça veut dire que tu te fais de plus en plus petit. Tu ne manges pas quelques jours, tu verras. Tu vas devenir une vapeur. Tiens, c'est ça le Tsimtsoum. Où serait-ce que la Kelim s'entrinat rocher? C'est-à-dire qu'en créant ce système-là, Dieu a créé en fait la capacité à devenir ustensile. Donc il s'est creusé. Beyachas laora mekori en rapport, par rapport à la lumière initiale. Autrement dit, le fait que Dieu se soit caché, il a créé un vide qu'il faut remplir. Et à qui de le remplir? Qui va remplir ce vide? L'homme a un petit travail dans ce remplissage. La plupart du travail se fera par Dieu lui-même au départ, et il va laisser un tout petit travail à l'homme pour finir de remplir. C'est comme un puzzle qui était construit au départ, quand vous l'achetez, il est construit, il y a toute l'image, et après on vous le mélange dans le magasin, vous arrivez à la maison, tout est la panique, et l'enfant commence à le construire. Mais comme il ne sait pas au début, alors le père lui fait un petit peu les contours. Et à la fin, il lui met quelques pièces. Et l'enfant qui finit ses pièces, il dit « Papa, j'ai terminé. » Il a fait « Bravo. » C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a fait la plupart du travail. Il nous a laissé juste terminer ce travail. Et pour terminer un tout petit peu ce travail, on a 6000 ans. Tellement nous sommes lents. Okay, parce que, au lieu d'avancer tout le temps, nous avons des avancées, des reculs, et on joue, okay, on danse. En réalité, on avance tout le temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pertes. Okay, et Dieu est patient. Mais la sonnerie sonne. À la fin du cours, on ne peut plus. Et la sonnerie va bientôt sonner. Parce que nous sommes à la fin du temps. Les achar mikem kri la or l'itpasset tel toch halal akimtsum. Donc la lumière qui fait elle-même rétracté et revenu dans le vide, L'Akhzir Bo Et Hachaim pour ramener la vie en fait. Vous comprenez bien que cette lumière c'est la vie. Quand la lumière réintègre le vide, c'est la vie qui revient. Comme l'âme dans un corps. Le fait poche d'âme et sur le sabria. Tout ceci, c'est juste pour vous donner un exemple. Que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, d'une entité, d'un manque et d'une entité, c'est-à-dire construction, destruction, reconstruction, en réalité c'est dans la base même de la création du monde. Et c'est pour ça que c'est comme ça dans ce monde. Ben là, on touche la cause. Parce que le monde a été créé de cette manière-là. Kvar oto inyan tel binyan, vesirata binyan, vesouf binyan. Donc nous avons une construction, une destruction, une reconstruction. Ou que du vrai chachamen ou zal, comme disent nos sages, shaya kadosh baruch hu bone olamot ou machrivam. Les sages nous donnent une expression dans la Kabbalah, que Dieu construisait les mondes et les détruisait. Ça vous rappelle quelque chose? Mon cher Rabbeinu, pour élaborer, pour ériger le Mishkan, le tabernacle, qu'est-ce qu'il faisait pendant 7 jours avant le 8e jour où Dieu, entre guillemets, se dévoilait? Il y a marqué que Moshe, tous les jours, construisait le Mishkan et le démontait tous les jours. Tout seul. Incroyable. C'est marqué comme ça. Pendant 7 jours. Et le 8e jour, c'était Yom HaShmini. Okay? Les 7 jours qui précédaient, on les appelait Sivat Yemei HaMiluim. Les 7 jours de Miluim. C'est-à-dire de remplissage. Et c'est de là que viennent les Miluim d'aujourd'hui. Sous un autre angle. Le 8e jour, Dieu apparaît. C'est-à-dire que Moshe, la même chose, il joue un jeu de construction, de destruction et de reconstruction. Et quelqu'un qui regarde extérieurement ce phénomène, qui se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est ça? Qu'est-ce qu'on va parler? Dans un livre plein de Torah actuel du Rav Tao, le Rosh Yeshiva de Har Hamor à Jérusalem, il est écrit Dougmat Ispatruto c'est la parpar. Il amène l'évolution de la création d'un papillon, qui est donné d'ailleurs chez le Rav Kook. Comment un papillon est créé? Alors, si vous rentrez dans ce siour là-bas, une folie. Et le siour, il dure des pages et des pages, et vous avez l'impression, bon, ça va, un papillon, ça va vite. Incroyable. Arbaas, la vie, il y a quatre grandes étapes. Amakbilim, la sève et Ranitka, qui correspondent à ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire construction, destruction, reconstruction. Batrala, mon fia, Bessa, au départ, il y a un œuf. Va, Bessa, on fait le zachal. Et cet œuf devient une larve. Et après un processus très long et très compliqué, très complexe, qui apparemment détruit tout ce qui est en train de se développer devant nos yeux. Et si on a une réapparition de cette larve, qui elle-même va se manger de l'intérieur, et va disparaître encore, et va réapparaître. Incroyable. Génial, le golem, il devient un genre de... Je ne sais pas comment on dit golem en français. Hein? C'est ça?
Une masse inerte.
Une masse inerte. Qui ne bouge pas. Verat de sofo sel dabar, derech ma'apachim de spekot en sfor abu amidbonen in d'achout, quelqu'un qui regarde l'évolution de ce papillon, il se dit, Dieu s'est trompé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seulement à la fin du processus, quel migdalé à parpar à Yafez a dit, nous apparaît un papillon qui est magnifique et qui va durer 2 jours. C'est quoi ce truc-là? Mitor kol adugmaot sheven. Tous les exemples que j'ai essayé d'amener ici, qui sont bien entendu pas tous les exemples de la réalité, et j'étais obligé de couper ce cours. Nisele keela psuta. La question qui revient est toujours la même. Mao hatorech b'ma'avar derech masavim shel korban. Pourquoi nous sommes obligés de passer par des étapes de destruction qui vont automatiquement être accompagnées de beaucoup de doutes de beaucoup de crises, et là je traduis ça à la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pourquoi Dieu ne nous fait pas un processus de délivrance d'Israël d'une manière simple? Pourquoi nous sommes toujours obligés d'arriver à un certain sommet, de se casser la figure, de remonter, de se recasser la figure? Mais c'est quoi? Pourquoi les choses ne sont pas simples? Pourquoi Dieu ne nous donne pas les choses clairement, tranquillement, en toute la vie, comme on dit? Et c'est fini? Pourquoi j'ai besoin de souffrir pour arriver à un degré? De Iboud à Tikva, il y a plein de gens dans ce processus qui perdent l'espoir. Ils ne comprennent pas. Vous êtes en train de me dire que nous sommes dans un processus de Géoula. On est arrivé en Israël, et au fur et à mesure des jours qui passent, on donne des morceaux de terre. On se vide de ce qu'on a nous-mêmes conquis. Et on a l'impression qu'au lieu de monter, on est en train de se dégrader. Est-ce un processus de Géoula ou alors c'est en train de me moquer de moi? Pourquoi le processus prend cette forme? Resserrer mon abétit katadel à tel point que certains d'entre nous, malheureusement, commencent à avoir des doutes même de la véracité des choses. Tout ceci n'est pas un cours pour que vous sortiez pessimiste, c'est bien l'inverse. C'est-à-dire que j'explique dans ce cours qu'en réalité c'est un processus prévu par Akadosh Baruch Hu. Et celui qui justement va lâcher l'histoire en plein milieu, qui va quitter la salle en plein milieu du processus, imaginez-vous le papillon qui va se développer pendant 3 semaines avant de devenir ce petit papillon, et vous, au bout d'une semaine, vous en avez marre, et vous quittez la salle, vous dites que ça la Géoula pour moi. Vous avez raté tout le film. Parce que dans le chemin, il y avait justement cette descente. Mais si vous comprenez d'avance, parce que vous avez un cours, que cette descente fait partie d'une remontée, et qui va vous remonter beaucoup plus haut que du degré où vous êtes venu au départ, alors là, vous vous dites que ça vaut la peine d'attendre un petit peu encore. Les causes d'autres qui viennent à Asik, les Khadash, les Mouts, les Dvaraïta, Batralat, Adderech, venez Elma. J'avais déjà cette plénitude, pourquoi tu me fais revenir à cette plénitude? Mais je vous ai déjà donné la réponse, ok? Et là, c'est que c'est le Dayek de la Son Amidrash. Et d'où j'ai inventé cette réponse? Pourquoi je dis que la deuxième fois, quand on remonte, c'est beaucoup plus élevé que la première fois? D'où j'ai inventé cette chose-là? Eh bien, repartez tous, regardez maintenant, c'est pourquoi vous avez les yeux sur les feuilles. Regardez la dernière ligne en gras, au départ, dans le premier chapitre, quand je cite le Midrash lui-même. Quand je dis Vayomer Elohim Yeyor, vous voyez? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Banoui. Mais il y a une suite. C'est pas disconstruit. Ou Meshuchlal, le Hatid Lavo. Le Midrash ne dit pas que c'est une reconstruction toute simple, comme j'ai fait exprès de vous dire ça maintenant. J'ai omis volontairement la fin du Midrash. Je vous ai caché la fin du Midrash. Le Midrash ne dit pas ce que j'ai dit. Moi, je vous ai dit jusqu'à maintenant construction, destruction, reconstruction. C'est faux. C'est construction, destruction, mais reconstruction beaucoup plus élaborée ou meshoukhla la de la voix. Et là, je vous dis la vérité, que la deuxième phase, celle de la reconstruction, sera beaucoup plus grande que la destruction, bien entendu, mais même que la première construction. Nous khalavim et sasot atamounbo. Et donc on pourra comprendre le secret. Share la kharabinyan arishon la khorban se akharab. Parce qu'après la première construction et la destruction qui lui faisait suite, Katusha Binyan Acharon et une autre vers le Masaya Batkila. On ne revient pas au même degré dans lequel nous étions au départ. Et là, Banouyou Meshoukhla Léatid Lavo. Ce sera construit et élaboré, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau qu'avant. Achidush ou Achiaslav, c'est la Acharachorbat. Et donc c'est ça la nouveauté dans ce tour. C'est que le degré atteint après la destruction, après la crise, Yosef Meoulé de Madrigaton est beaucoup plus fort, beaucoup plus élevé, Minashla Varishon, que la première étape. Rekol Zelama, c'est pourquoi? Pourquoi il est plus haut? Qui reste seulement Yidbarach ou l'Aïti, le Mizrahav? Et là, je cite les kabbalistes. Parce que le désir divin, entre guillemets, la volonté divine, c'est de faire du bien aux créatures. Et pour faire du bien à une créature, je ne peux pas la forcer à recevoir mon bien. Si je vais vous donner une pomme et je vous force, parce que je vous mets un pistolet, mange, vous n'allez pas apprécier cette pomme. Vous devez avoir une certaine recherche, une certaine envie, un languissement même, un désir qui vient de vous. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé ce système. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la totalité et il la retire. C'est comme un enfant. On veut lui montrer une glace, on dit, tu veux cette glace? Alors l'enfant va commencer à vouloir véritablement. Dieu nous a déjà fait goûter les choses. Quand Dieu nous fait goûter la Torah dans le ventre de la mère, c'est pas pour nous la faire oublier gratuitement. C'est pour qu'on languisse cette Torah lorsqu'on sort. Quelqu'un qui étudie la Torah dans ce monde, c'est parce qu'il a un souvenir actif, beaucoup plus fort que celui qui n'étudie pas. Et il a un désir d'étude parce qu'il se rappelle ce qu'il a vécu dans le ventre de sa mère. Tout simplement, il fait une chazara. Une répétition de ce qu'il a déjà goûté. La lumière qu'un juif, qu'un homme d'Israël veut atteindre, et les sages nous disent que le juif veut atteindre les plus grandes lumières. Pourquoi? Il est toujours extrémiste dans sa recherche. Il veut le grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà goûté la grande lumière. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire du bien à quelqu'un, il va nous donner le choix, le libre choix. Tant que nous n'avons pas le libre choix et que les choses sont forcées, ce n'est pas du bien. La royauté divine ne se reçoit que lorsqu'elle est beraton, par un désir, par une volonté de l'homme. Dieu ne vient pas avec des mitraillettes nous forcer et nous massacrer comme un dieu extérieur qui vient nous appuyer sur la tête, recevez ma Torah. Ce n'est pas du judaïsme ça. La Torah n'est pas extérieure à nous. Dieu n'est pas extérieur à nous. Si Dieu est extérieur à moi, ça veut dire qu'il est étranger à ma vie. Et donc si je sers à un dieu étranger, en hébreu ça s'appelle de la avodah zarah. Tout simplement. Dieu est en moi. Dieu est à l'intérieur d'Israël. C'est-à-dire que les mitzvot et la Torah que je fais ne sont pas extérieures sur ma tête. Elles sont de l'intérieur vers l'extérieur. Ça change tout. Seulement de cette manière-là, on peut parler d'une réception complète, parfaite. Une vraie réception. Et c'est pour ça que la fin du pasouk, c'est Dieu a vu que la lumière était bonne. C'est-à-dire que nous l'avons acceptée. Un couturier achète un tissu très cher, très rare. Et quand il commence son travail, il commence à le découper. Celui qui ne connaît pas la couture et qui voit ce couturier avec un œil extérieur, il se dit, celui-là, il est fou. Il avait un tissu magnifique, il est en train de le découper. Prochef shachayat azem esuga. Et là, c'est kol ma'asav en behemet bematara brura litfor khalifa na'am. En réalité, le but de ce tailleur, c'est de créer une tenue, un costume magnifique. Et pour ça, il faut passer par une étape de coupure. C'est comme ça que l'on construit. Il y a des destructions qui sont en réalité partie intégrante de la construction. Et nous terminons en arrivant dans notre vie à nous. Celui qui n'arrive pas à voir l'image globale de la réalité dans laquelle nous sommes, et surtout en Israël, si nous n'arrivons pas à trouver le dénominateur commun entre tous les détails que nous voyons, nous allons devenir fous. Si vous allumez la télévision ou si vous allumez la radio et vous n'êtes que dans les détails, vous allez devenir fous. Là, on est attaqué par là, là, on est attaqué par là, celui-là, il a fait une embrouille, l'autre, il a fait un truc, ça ne s'arrête pas. Si je ne vois pas le cheminement divin à travers cette histoire, si les détails me font perdre l'image globale, si les petits bouts du puzzle me font perdre l'image du puzzle, je ne vais jamais arriver. Yachol Mehera Lipol Chazve Shalom Leolam Apirut. Et des gens comme ça tombent dans le monde de la séparation. Dans la Kabbalah, ça s'appelle le monde des Klipot, le monde des écorces. Parce qu'ils ne voient les choses que dans les écorces. Le matab, c'est le Bikaon Veyehush Chazve Shalom. Et vous avez des gens dépressifs à cause de ça. La chaîne Alimoud Achasouba Chaim, c'est pour ça que l'étude importante dans la vie, où les filles Seder Ayadoua Klal ou Pratou Klal, c'est d'étudier les choses d'abord dans leur totalité, après seulement rentrer dans les détails, puis retrouver la totalité. Qui nous a donné cet ordre-là? Tous les matins, nous le disons dans la fila, Rabbi Ismaël Omer, du Shlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet, Klal ou Pratou Klal. D'abord étudie l'idée globale de l'étude dans laquelle tu es. Après, tu rentreras dans les détails, c'est important. Pourquoi? Parce que tu es venu du tout. Tu n'as pas commencé par les détails. Et en plus, le plus important, c'est que tu ne restes pas à la fin dans les détails, tu reviens au tout. C'est-à-dire que tu es entouré entre deux tout. Comme Binyan, Khorban et Binyan. C'est exactement le rythme. Beyom Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, nous avons exactement tout ça. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, la racine de l'année? Donc, Akadosh Baruch Hu va nous donner tout ce que je viens de vous dire, en allusion, dans quoi? Dans le son du chauffard. Qu'est-ce qu'on fait dans le chauffard? Tkia. Shvarim. Troua. Tkia. C'est-à-dire, Tkia, c'est quoi? Un son parfait qui ne bouge pas. C'est-à-dire, l'éternité. Par quoi on termine le sofa? Par le même son. Mais au milieu, il y a toutes les brisures. La panique. C'est exactement pareil. Le son du sofa vient nous donner le rythme de la vie. Nous avons une totalité au départ, une totalité à la fin, et au milieu, nous avons toute la panique, les brisures et tout ce que vous voulez, mais il faut marcher. Il faut avancer. On n'a pas le droit, je sors un petit peu le texte pour terminer le cours oralement, sans le texte, on n'a pas le droit de tomber, de sombrer au milieu des shvarim. Comment ça s'appelle en hébreu? Shvarim, c'est-à-dire les crises, les brisures. On n'a pas le droit de s'arrêter là-bas. Il n'y a aucune skia du chauffard qui s'arrête là-bas, c'est interdit. Celui qui s'arrête au milieu, il est foutu. Celui qui s'arrête de marcher, il est foutu. Nous sommes obligés de continuer à marcher. C'est un optimisme juif. Personne ne peut nous arrêter. Il y a une chanson en hébreu. Et ta mandina azot, qui est ça, l'artiste. C'est une mélodie qui vous tape au système, on ne peut pas l'arrêter. C'est exactement ça. Nous sommes têtus. Am kseores. Nous avons la nuque dure. Pourquoi? Parce que nous devons marcher, avancer. Et même si nous avons des brisures au milieu, c'est pas grave. Vous savez comment s'appelle la chaise, le lit sur lequel la femme enceinte est assise en hébreu? Masber. Incroyable. Et Aïssa, Yosef, c'est pas la Masber. La femme est assise sur la crise. Et si vous l'écoutez, elle veut rentrer à la maison. Elle ne veut plus accoucher, elle veut se tranquille. C'est obligé, c'est fini. Dans la Haftara de cette semaine, on a mis exactement pareil. Dieu se compare lui-même à une femme enceinte et il dit, est-ce que vous avez déjà vu une femme enceinte qui, au bout de sa grossesse, dit non, je veux arrêter tout le processus, c'est fini. Elle est obligée de sortir le bébé. Moi aussi, ce bébé va sortir. Autrement dit, la Géoula, la matière. Je ne vais pas arrêter au milieu du processus. Donc suivez-moi. Ne me laissez pas au milieu de la route, du chemin. Ayez confiance, à la fin c'est le plus dur. Chaque jour c'est comme un an. Parce qu'on ne voit plus la fin. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, vous l'avez sur le cours. C'est plus facile à accepter que de ne pas comprendre la réalité. Shevaipol Sadik Vekam. Les Sadikim tombent 7 fois dans ce monde. Mais ils se relèvent. Un jour, un prof est rentré dans une classe de voyous. Et le pauvre, il s'est cassé la figure à l'entrée de la classe. Et tous les élèves ont commencé à lui balancer des papillons et des machins et des bouts de papier et se moquer de lui. Il s'est levé, il leur a dit, première leçon, on a le droit de tomber, mais il faut savoir se relever. Et celui qui tombe, c'est un sadique, mais il se relève. Il ne reste pas dans sa fille. Le prophète nous dit, Gadol Ivie Habaita Aharon Minarishon. Le dernier temple sera beaucoup plus grand que le premier. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné des premières tables de la loi, elles se sont cachées. Soit qu'il les a mises à la poubelle. Pas du tout. Elles sont dans la même boîte où sont les deuxièmes tables. À quoi ça sert de garder des brisures de tables? Pour nous donner la leçon de notre vie. C'est que même les brisures que tu as eues dans ta vie font partie de ta construction. Voilà.